Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue toujours, sans public, vous le savez, au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité VOD, DVD, Blu-ray du cinéma avec dans notre compartiment tueur Charlotte Lipaska, de Vogue Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et de l'excellente Une Heure en série tous les samedis soirs sur France Inter, Jean-Marc Lalanne, des Inrecuptibles Nicolas Chalère de l'Obs. On parle ce soir des nouveaux films de Robert Zemeckis, Sacrée Sorcière, et de Sylvie Ferred, Madame Claude, et deux films plus anciens, dont Compartiment Tueur, Irréversible, Les Dix Commandements, The Addiction et Le Gang Anderson de Sidney Lumet. Cette émission, je voudrais la dédier à Bertrand Tavernier, disparu il y a 10 jours, le 25 mars, à l'âge de 79 ans, le réalisateur d'Un Dimanche à la Campagne et de Que la fête commence était un véritable, vous le savez, encyclopédiste du 7e art et qui me conseillait, par courriel répété il y a encore quelques semaines, d'inscrire certains films classiques au programme du Masque et la Plume. Et je lui dois notamment la découverte récente de cette merveille que sont les Indomptés de David Miller avec Kirk Douglas. Merci Bertrand, merci pour tout et soyez en paix. Et on parlera de certains de vos films en toute fin d'émission. Dans le courrier de la semaine, à propos de Nelly et Monsieur Arnaud, le dernier film de Claude Sautet, Stéphane Ferrière parle du film de trop. Le contraste avec Un cœur en hiver si intense et poignant est énorme. Et pour la sensualité d'une nuque d'une jeune femme qui tape un texte, je suis de ceux qui préfèrent Romy Schneider dans Les choses de la vie. À propos du procès de Julie Richards de Larry Pierce, dont le titre original est, je vous le rappelle, One Potato, Two Potato, Adrien juge ce film très avant-gardiste pour 1964. Certes, pour un spectateur de 2021, il paraît faiblard ou gauche, mais il faut le remettre absolument dans son contexte socio-historique de l'époque. Christine Fink remercie Eric Neuhoff pour son conseil. Le petit fugitif de Maurice Engel et Ruth Orkin, réédité chez Carlotta. C'est un film magnifique. Quel émerveillement, quelle tendresse, quelle modernité. Ce film pose les bases de la révolution cinématographique à venir avec sa liberté et sa rêverie. Joey, le petit fugitif, est bouleversant. Et merci à tous pour ces dimanches soirs ou en couleur. Et puis encore un merci de Simon qui nous écrit, j'aime beaucoup ça, les critiques du dernier Masque et la Plume Cinéma, avec au programme des films oubliés, voire inconnus, ont fait assaut d'érudition, c'est impressionnant. Et notre cinéphilie paraît bien modeste et admirative à côté de celle que Michel Simon désigne comme une vie de cinéma, on en redemande. Eh bien on continue, merci Simon, j'aime bien effectivement cette idée d'une vie de cinéma qui continue, malgré le confinement, malgré les salles fermées, et grâce notamment à ces films qu'on peut voir et revoir. Pour l'instant, on commence avec Sacrée Sorcière, le nouveau film de Robert Zemeckis avec Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, qui, faute de salles, sort directement en VOD et DVD chez Warner. Le réalisateur de Retour vers le futur et de Forrest Gump adapte le roman de Roald Dahl, où, vous le savez, les sorcières ne portent ni balai, ni chapeau pointu, mais ne quittent jamais leurs gants, sont privées d'orteils et ont des perruques parce qu'elles sont chauves. Évidemment, elles détestent les enfants. Elles ont aussi une sorte de reine des sorcières appelée Grandissime ou Magnanimissime. Ici, on, par rapport au roman, on quitte l'Angleterre originelle pour l'Alabama de 1968. Et cette fois, un jeune garçon noir et sa grand-mère, qui est jouée par Octavia Spencer, sont confrontés aux sorcières qui veulent transformer les enfants en souris et à leur chef, qui est incarné par Anne Hathaway. Tout le problème étant de les démasquer sous leurs allures ordinaires. Un film assez conventionnel, il faut dire, malgré la coproduction quand même signée Guillermo del Toro et Alfonso Cuarón. Et je rappelle que, aussi que le classique de Roald Dahl avait été adapté, c'était en 90 par Nicolas Roeg, avec Angelica Houston, qui elle ne faisait pas dans la demi-mesure, film d'1h45. Oui, que j'ai trouvé un peu conventionnel, mais peut-être que vous pensez différemment, Xavier.
Mais je déteste pas cette adaptation, effectivement, dans l'Amérique de la ségrégation, parce que c'est quand même clairement un des sujets oui. qui est évoqué pour cette transposition. Je trouve que l'ouverture avec des diapositives et une voix, qui est celle de Chris Rock dans la version originale, qui induit en plus une erreur par rapport à la fin du film, que je ne révélerai évidemment absolument pas, et que je trouve plutôt brillante, plutôt intelligente. Je trouve qu'il y a quand même des idées assez régulièrement. Il y a l'idée de vaudou aussi, avec cette pièce cachée dans la maison d'Olivia Spencer. Enfin voilà, je trouve que la culture noire, la culture de la ségrégation, avec beaucoup de guillemets bien évidemment, est assez bien intégrée dans le mauvais esprit de Roald Dahl et le mauvais esprit de Guillermo del Toro aussi, dont on sent l'influence quand même dans le scénario. La grande question, c'est à qui s'adresse ce film, parce que les enfants vont être morts de trouille. Moi, le premier, d'ailleurs, j'en menais pas large.
T'exagères un peu quand même.
Je suis
mort
désolé.
Mort de trouille.
Les enfants, non, ça s'adresse, moi, je suis désolé.
C'est pour les 8-12 ans,
je
quoi.
Ça, c'est pas. Après, j'adore le surjeu d'un Attaway en sorcière. Évidemment, Angelica Houston avait mis la barre très haut. Et je trouve qu'elle se hisse quand même à la hauteur.
Beaucoup moins qu'Angelica Houston.
Qui en faisait des caisses, mais j'adore Angelica Houston. Et là, Anna Taguchi, qui n'est pas une actrice que je vénère, je la trouve assez gourmande quand même de méchanceté. Il y a des idées avec les griffes comme ça, le chat qui lui remonte le long du bras comme une espèce d'extension maléfique puisque les enfants sont transformés en souris dans cette histoire. Je trouve que quand même il y a des trouvailles. Alors c'est comme d'habitude de la mise en scène en looping, hein. T'sais, Mickey s'adore ça depuis le Pôle Express. Mais honnêtement, je trouve que cette adaptation retrouve le social, la méchanceté de Roald Dahl transposée plutôt subtilement au sens vraiment historique du terme, dans cette Amérique-là. Et je dois avouer que dans le genre spectacle, grand 8, et ça fonctionne plutôt bien.
C'est plus indulgent que moi.
Ça ne durera pas dans cette émission, je tiens à te le dire.
Charlotte.
Xavier a soulevé le problème fondamental du film, effectivement, à qui ça s'adresse. C'est-à-dire c'est beaucoup trop effrayant pour les petits et c'est beaucoup trop neuneux pour les grands. Donc il y a peut-être une petite fenêtre de tir, comme le disait Nicolas, entre 8-12 ans. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Je rejoins Xavier sur Anna Taoué. Moi, je trouve qu'elle cabotine joyeusement. Alors, pourquoi avoir cet accent russe? Je ne sais pas. Mais elle s'en donne à cœur joie. C'est plutôt rigolo.
Dans les films des années 60, sinon, tous les méchants sont des Russes, hein, quand même.
Oui, mais là, le film, d'abord, manque singulièrement d'humour. Il est très sérieux. Et je trouve, moi, contrairement à toi, Xavier, qu'il n'y a pas beaucoup d'inventivité visuelle. C'est plutôt assez plan-plan et attendu. Sauf peut-être une scène que je trouve très belle visuellement. Elle est même graphique. C'est la scène dans laquelle Anne Hathaway, qui donc a l'apparence d'une dame bien sous tout rapport, va dévoiler sa véritable silhouette de sorcière. Et c'est vu du point de vue du petit garçon qui est caché sous l'estrade sur laquelle elle se dévoile. Et là, il y a graphiquement des plans que je trouve très très beaux, et c'est la première fois qu'on voit vraiment l'apparence de cette sorcière terrible. Après, l'alchimie pour moi ne prend pas entre peut-être la patte et les visions presque horrifiques de Guillermo del Toro et la visée plus grand public du film, quoi. C'est entre les deux et ça reste assez tiède.
Quand on pense à ce que Tim Burton aurait pu en faire, Jean-Marc.
Oui, en même temps, Tim Burton, moi je trouve qu'il a aussi un peu raté son Roald Dahl. Je trouve pas que Charlie et la chocolatrice soit un des meilleurs films de Tim Burton.
Je suis pas d'accord.
Et par ailleurs, Zemeckis, c'est quelqu'un qui me passionne assez et qui très longtemps, il a été assez en avance sur ce qu'allaient devenir les images de cinéma, sur la manière dont elles allaient s'hybrider. Et je trouve qu'il a souvent trouvé les bonnes histoires pour exprimer ça. La mort va si bien. C'est vraiment un film génial qui raconte comment des corps monstres peuvent exister au moment où Hollywood devient numérique. Je trouve que Pôle Express est un film sidérant sur la performance capture. Et là, tout à coup, j'ai le sentiment qu'il était un peu en retard et qu'il n'arrivait pas du tout à trouver qu'est-ce que ça peut être les dernières hybridations aujourd'hui à Hollywood, quels sont les derniers usages high-tech des effets numériques qu'on peut avoir et qui revient à une forme d'animation que je trouve un peu ringarde, pas très inventive visuellement. Contrairement à Xavier, je trouve pas qu'il fait grand chose du ségrégationnisme. Je trouve que tout ça reste un peu anodin et donc le film est quand même assez fade.
Nicolas.
Oui, mais alors moi je mélange tout ça. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Xavier sur le début. Il y a vraiment une installation et c'est marrant parce que c'est tout ce qui n'est pas fantastique et qui ne relève pas du conte que je trouve assez intrigant et vraiment assez beau. C'est même assez tragique parce que c'est un orphelin qui a quand même perdu ses parents et qui se retrouve chez sa grand-mère. Et cette partie-là est vraiment très belle. Et puis après, le film tombe dans les travers. Et j'allais dire que justement, ça rejoint un peu Tim Burton qui pour moi vieillit assez mal avec le temps. Alors, Charlie était quand même beaucoup plus
Charlie
intéressant.
Mais
c'est ces cinéastes qui ont un peu nourri notre imaginaire et notre poésie de enfantine et qui ont, je pense, ont un peu perdu leur âme d'enfant. Et puis je pense que Zemeckis surtout a une noirceur profonde. Et là, elle est un peu gommée au profit d'un spectacle un peu conventionnel. Alors il y a toujours une forme de fluidité de mise en scène qui est assez impressionnante. Mais quand même au service, ça manque de poésie, ça manque de charme, ça manque d'idées fortes, quoi. Et dès qu'on tombe dans le conte, moi, Anna Taoué, je la trouve hystérique et factice. Alors effectivement, c'est une sorcière, mais rien ne justifie ce surjeu. On comprend pas trop. Donc je trouve que ça manque vraiment beaucoup de charme. C'est un peu un produit lyophilisé, malheureusement. Et je trouve que voilà, Zemeckis a été plus intéressant dans les précédents films que quand il revient. Et j'aurais été curieux de voir la version de Del Toro en stop motion, si vous voulez la faire en stop motion. Et je pense que ça aurait sûrement eu beaucoup plus de charme.
C'est Sacré Sorcière, c'est signé Robert Zemeckis. C'est un film qui devait sortir à la fin de l'année dernière et qui donc est disponible désormais en VOD et comme beaucoup de films et DVD chez Warner. Madame Claude, un film de Sylvie Vered disponible depuis avant-hier, 2 avril, sur Netflix, un biopic très sage là encore, de Fernande Grudet, alias Madame Claude, surnommée la Maquerelle de la République, interprétée ici par l'excellente Carole Rocher, qui dirige dans un hôtel particulier du 16e arrondissement un réseau de prostitution réservé au tout Paris. Et même au-delà, puisqu'on voit ici, enfin, de dos, prétendument le client Marlon Brando, et que sont évoquées les visites fréquentes du Shah d'Iran. Tout ça sur fond d'affaires Markovitch. Évidemment, elle règne donc, Madame Claude, sur ce gynécée de centaines de filles. Alors, elle parle dans le film de 200, mais je crois que ça allait jusqu'à 500 filles, composées notamment pour le film des actrices Afzia Herzi, Joséphine Delabaume, Annabelle Belmondo, et surtout Garance Marillier, qui joue ici une fille de diplomate qui va précipiter sans le vouloir la chute de la proxénète. Le film raconte donc l'ascension dans les années 60-70, puis la chute de Madame Claude quand elle est lâchée par ses protecteurs haut placés. Au générique, côté mec, il faut citer Benjamin Biolay, qui a un film pour l'instant sans Benjamin Biolay, que ce soit d'ailleurs en DVD, en VOD, en Blu-ray, avec Roche Dizem et avec Pierre de la Donchamp à 1h52. Je rappelle que la vraie Madame Claude est morte à Nice le 19 décembre 2015. Charlotte.
Bah, c'est autant un film sur une époque, c'est-à-dire la fin d'une époque et l'avènement d'une nouvelle, et sur la trajectoire effectivement assez singulière et cette personnalité très forte, sulfureuse qu'était Madame Claude. Je trouve que visuellement, la reconstitution des années 60-70 tient parfaitement la route.
Elle est modeste, il n'y a pas de...
Oui, parce qu'il n'y a pas un gros budget.
60,
oui, mais c'est visuellement, c'est assez beau et bien reconstitué. Le problème pour moi, c'est que c'est un problème de distance par rapport à son sujet, voire même carrément de point de vue de la réalisatrice sur Madame Claude, qui est à la fois fascinante et détestable, et je trouve qu'elle passe un peu vite sur la face obscure de la force, si je puis dire, ou sur la face sombre de Madame Claude, dont on comprend très bien sa détestation des hommes et sa détestation d'elle-même, mais sur le rapport aux filles, le film la montre comme une chef d'entreprise, presque maternelle à certains moments, bien plus que maltraitante.
Oui, elle les emmène en vacances comme une colonie.
Oui, voilà. Or, il y a quand même deux, trois scènes très fugaces, où une jeune fille rentre complètement tabassée d'un rendez-vous d'escorte et Madame Claude lui dit « Oh, allez, un petit coup de mercurochrome » et s'enquiert surtout de savoir si elle a été payée et de lui prendre son fric. Une autre va partir à l'étranger, elle ne reviendra jamais. On dit « Oh, bah oui, elle est partie, elle est morte. » Enfin bon, ça la défrise pas plus que ça. Mais c'est très, très léger, ça, dans le film. Et par ailleurs, je trouve qu'il manque un enjeu narratif sur les 1h50. Ça aurait presque pu faire une série, en fait. Certainement qu'en développant des intrigues parallèles, des personnage secondaire, ça aurait été beaucoup plus fort sur la longueur, parce que sur la distribution, j'ai rien à dire, car le Rocher
dans ce cas,
a une autorité.
Dans l'émission de Xavier Leherpeur, et pas au masque et la plume. Hein.
Mais la distribution est parfaite. Pierre de la Donchamp, je le trouve vraiment de plus en plus flippant dans ses rôles ambigus, et il a le sourire d'un gendre idéal, et il a le regard d'un traître, il est absolument parfait. Donc je suis un petit peu déçue, tout en reconnaissant quand même des qualités au film.
Nicolas.
On voit bien ce qu'elle veut raconter, c'est-à-dire qu'elle veut. C'est vraiment. Elle a inventé le personnage de Garance Marillier, qui est une fille de bonne famille qui essaie de concurrencer Madame Claude sur son terrain. Et le cynisme froid de ce personnage, dont on comprend, je ne vais pas révéler, mais qu'elle a eu un traumatisme d'enfance très actuel,
absolument,
malheureusement. Et de ces deux générations de femmes cyniques, froides, qui essaient de réussir dans un monde d'hommes. On voit bien ce qu'elle veut raconter aussi, de la place laissée aux femmes, de la toxicité d'une forme de patriarcat. patriarcat, et ça c'est assez fort et assez bien vu. Après, le problème c'est qu'on sait pas, on sait ce qu'elle veut dire, mais on sait pas trop ce qu'elle veut raconter. C'est-à-dire qu'il y a le film est vraiment le cul entre deux chaises, si j'ose dire, entre une forme de polar à la Papa.
Je sais pas si c'est la métaphore est très bonne, mais
non, mais de polar politique avec des voilà, on sent que il se passe plein de choses en hors champ, mais parfois un peu entre le fait que ce soit ambigu, trouble, et le fait qu'il y ait des ellipses incompréhensibles avec des gros trous de scénario. Voilà, on sait pas trop où se placer. Et puis à côté, on sent qu'elle joue un érotisme assez d'ailleurs assez joliment filmé par Léo Instinct, le chef op, une sorte d'érotisme de boudoir comme ça, un peu rock and roll avec de la musique garage qui est très calquée sur la Polonie de Bonello. D'ailleurs,
on peut noter Bonello. Que on voit des corps nus masculins, mais pas féminins.
Si, on voit des corps nus féminins.
Très
et elle
peu,
arrive
très
à
peu, très peu.
Elle arrive
très
à amener un érotisme tout en suggérant une violence et une forme de soumission.
On ne compare pas ça à la Polonie de Bonello.
Non, mais si, si, parce que on sent
la musique qui fait penser.
Elle reprend des codes esthétiques. Alors la musique est complètement inspirée de ça.
D'ailleurs, il y avait Javier Herzi dans le
exactement. Exactement. Non, il y a vraiment des raccords. Après, c'est dommage parce que autant Garance Mérillier que Carole Rocher, qui a une espèce de comme ça de virilité froide
bien,
à la Jeanne Moreau. Formidable. Vraiment, il y a quelque chose de Jeanne Moreau dans son port, dans comme ça qui est très très fort. Elles sont vraiment bien. Donc c'est vraiment c'est dommage. C'est vraiment un film à moitié réussi, à moitié raté, quoi.
Xavier, il n'y a pas de faute de goût en termes de distribution. Les costumes même servent aussi à la dramaturgie. De côté comme ça, la rectitude du personnage de Madame Claude. Mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous raconter? Ça saupoudre à la fois de faits divers réels, l'affaire Markovitz, effectivement, Alain Delon, le procès qu'on perd au plus au bout de 5 minutes et qu'on récupère à la toute fin pour se rattraper un tout petit peu au rideau. Il y a un moment.
Et puis la vie sentimentale de Madame Claude dans le film n'est pas très intéressante.
Non, enfin, ça n'a aucun intérêt.
Je t'aime plus.
Même si elle s'est bat dans les bras du très beau Palami, personnage dont on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. Enfin, il y a quand même plein de choses. Moi, je trouve que s'il avait fallu qu'elle se consacre à une intrigue, c'était effectivement l'arrivée de Sidonie et comment ce personnage va essayer de prendre la place de Madame Claude, parce que c'est un personnage totalement inventé, donc qui peut apporter une certaine dramaturgie, dont elle ne fait pas grand-chose. C'est au détriment vraiment d'un... Encore une fois, le film ne se regarde pas sans déplaisir, mais il ne nous en reste rien au bout d'une heure cinquante. Il y a quand même des fautes de goût, c'est-à-dire que, contrairement à ce que je disais au début, quand effectivement elle égrène le nom des jeunes femmes qui sont parties en Afrique et qui n'en sont jamais revenues, comprenez qu'elles ont été abattues, tuées, je ne sais pas très très bien, laissant une espèce de suspense un petit peu glauque comme ça, sans résolution. C'est un peu léger, effectivement. Alors Madame Claude est indifférente, Madame Claude est froide, Claude est calculatrice, on est bien d'accord. Mais il y a un moment, je ne sais pas très bien ce qu'elle nous raconte, le Pigalle, à travers le personnage de Roche Dizem, ces endroits un tout petit peu interlopes, comme ça, qui sont à la fois des endroits de mafieux, de prostitution, de séduction. Enfin,
mais ça, pardon, c'est important.
Mais tout ça, on le sait.
Mais tout ça, on le sait. Voilà,
ça a déjà été raconté mille fois.
Aucun film narratif, tant soit pas intéressant.
Jean-Marc.
Oui, ben, pas grand chose à rajouter. Moi aussi, j'ai le sentiment d'un film qui n'arrive pas du tout à trouver sa forme, qui a vraiment un sujet. C'est-à-dire que le film vibre un peu lorsqu'il raconte ce rapport de fascination, d'affection et de conflictualité entre Garance Marillier et Madame Claude. Mais le film s'éparpille trop. Et moi aussi, j'ai eu le sentiment de voir la version compressée et maladroitement compressée d'une manière infiniment plus vaste. Et de voir une sorte de remix faussement enlevé où tout est éparpillé, où on saute d'une scène à l'autre sans que vraiment les scènes ne s'installent, sauf quand tout à coup il y a le face-à-face Garance Marillier et le personnage principal, et je comprends pas du tout pourquoi, alors que c'est manifestement le film qui l'intéresse, elle ne l'a pas davantage placé au centre de son long métrage.
C'est donc Madame Claude de Sylvie Verret, et c'est visible, disponible depuis 2 jours sur Netflix. Irréversible, le deuxième film de Gaspard Noé qui date de 2002 et qui ressort en version restaurée, si ce mot a un sens pour ce film, et DVD Blu-ray, chez Studio Canal, avec notamment Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel, un film tourné en Super 16 et en long plan séquence, monté à l'origine selon un ordre hanté chronologique, c'est-à-dire qu'il commençait par la fin et se terminait par le début, depuis Gaspard Noé l'a remonté à l'endroit, ce qui change absolument tout, dans le sens chronologique, alors qu'elle rentre de soirée, Alex, et donc Monica Bellucci, la compagne de Vincent Cassel, alias Marcus, est violée et battue par un fou furieux, le Ténia, incarné par le champion de boxe Joe Prestia. La scène durant
7 minutes.
Pas quoi?
7
non, plus, beaucoup plus.
Pardon. J'ai chronométré hier.
C'est presque 15 minutes. Moi, j'ai chronométré 15 minutes, mais...
Il y a les 12 minutes de viol et elle se fait encore tabasser 2 minutes derrière.
Voilà, c'est bien ça.
Non, disons-le, parce que quand même, c'est tellement beau, c'est tellement poétique. Que...
Marcus, aidé de 2 mercenaires et suivi de son ami Pierre, c'est donc Dupontel, va s'employer alors à venger Alex, dire que le film est violent, est un euphémisme. La bande originale, composée par Thomas Bangalter, l'un des 2 Daft Punk, n'adoucit pas vraiment les mœurs du film. Sa présentation à Cannes, ça je m'en souviens très bien, en compétition officielle, avait provoqué un débat houleux et des quelques cris. Et qu'est-ce que vous en pensez 18 ans plus tard, puisque le temps passe, Xavier ?
Je vous répète, dans la tête de Gaspard Noé, ça doit être absolument invivable, effroyable, une saleté sans nom. Moi j'ai pris une douche après avoir revu le film, tellement j'étais absolument mais dégueulasse, dans tous les sens du terme. C'est vraiment un film abject, je vais essayer de ne pas m'énerver, je vais essayer d'être calme, d'être posé. Je ne l'ai pas vu dans la nouvelle version chronologiquement remontée. J'ai voulu le revoir tel que je l'avais vu. Je n'étais pas à Quintetanella dans une salle de cinéma parce que je continue de penser que c'est un film de petit facho qui vous prend de haut et qui veut absolument avoir sur vous un pouvoir que lui autorise sa fonction de metteur en scène. Donc je pense que tout est placé, tout est pensé de cette manière-là, y compris la dernière révélation sur Monica Bellucci, que je tairai évidemment par respect pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. En même temps, ils peuvent s'en passer. Jusqu'à la toute dernière image thromboscopique avec ce bruit d'hélicoptère qui est vraiment choc corridor. C'est-à-dire, on tient absolument à ce que vous baissiez les yeux. C'est un mec qui vous regarde et tu vas baisser les yeux. Je vais te mettre de la violence dans la gueule et tu vas baisser les yeux. Je vais te mettre des coups dans la gueule et tu vas baisser les yeux. Et tant qu'on regarde son film, on n'a toujours pas baissé les yeux. À la fin, il nous a, par un effet effectivement insupportable de blanchiment de l'écran et de bruit assourdissant, donc on est obligé de baisser les yeux. Il a donc gagné. Bravo, tant mieux. J'espère qu'il est content pour lui. Pour le reste, c'était effroyablement complaisant. J'ai voulu le revoir dans son état originel parce que tout le début, avec cette caméra qui virevole comme une mouche amère, entre guillemets, parce que comme on est dans une boîte qui s'appelle le rectum, où tout le monde se fiste, et où quelqu'un très gentiment nous dit « ça pue la merde », il y a quelqu'un qui a eu ses règles, d'une finesse, d'une homophobie à peine cachée, la caméra virevolte jusqu'au moment où elle se posera enfin au bon endroit pour nous filmer le calvaire de Monica Bellucci in extenso pendant 14 minutes.
Qui est une scène insupportable.
Qui est une scène dégueulasse, qui est une scène abjecte, qui est une scène inutile. Enfin, alors on essaie de se raccrocher comme on peut. On se dit, mais c'est quoi le trucage pour qu'elle ait la gueule ensanglantée parce qu'il n'y a personne pour lui refaire le maquillage et tout ça. Donc c'est horrible ce qu'on est en train de subir et de vivre. C'est un film d'une homophobie. C'est-à-dire, les 2 mecs, pendant 17 minutes, cherchent le ténia. Le ténia dans une boîte, le rectum, une boîte gay, enfin tout ça, d'une subtilité, d'une finesse sans nom. Ça permet quand même à Gaspard Noé de se rincer l'œil, parce que ça n'est rien d'autre que ça sur des mecs à moitié à poil qui se passent leur temps à dire je t'encule, t'as envie que je t'encule, tu me suis. C'est abominablissime. Je ne sais pas qui est ce garçon, ben Gaspard Noé. Je ne veux pas jamais rencontrer un type pareil. Tout ce que je sais, c'est que vraiment, c'est un film dégueulasse.
Il me semble que tu as dit l'essentiel.
Oh non, c'est pour continuer, Jean-Marc.
Oui, en revoyant le film, il y a quelque chose que j'avais oublié, c'est que dans la scène, dans cette boîte de nuit, ce sex club qui s'appelle le Rectum, à un moment donné, on voit Gaspard Noé en train qui joue un personnage qui se masturbe. Donc, évidemment, c'est un effet de gros malin, et on a envie de lui répondre un peu la célèbre phrase de Lacan, c'est pas parce que vous le dites que ce n'est pas vrai. Et évidemment, c'est une manière de devancer les critiques, de dire, oui, ok, je me branle en faisant des films, et alors, avec cette posture un peu d'ado, provoque, un peu bêta, qui est vraiment celle du cinéaste, en tout cas, la personne, je ne le connais pas du tout. Mais justement, c'est vraiment ce qu'il fait, en fait. C'est vraiment un film qui se vautre dans ce qu'il regarde, qui ne le regarde pas, qui se vautre dedans. C'est-à-dire qu'il montre, moi, je ne peux pas croire, évidemment, que dans ce film, on n'a jamais entendu autant d'injures racistes et homophobes au cinéma. Évidemment que ce n'est pas le point de vue sur le monde du réalisateur qui filme ce qu'il y a de plus abject dans les puissants de l'humanité, sauf qu'on sent que pour lui, c'est extrêmement érotique de le filmer, qu'il n'y a pas de chose plus désirable pour lui que de filmer cette espèce de toxicité complètement défiltrée, sans censure, et l'absence d'ordre qu'il met dans ce qu'il filme, de regard, de construction, ça vraiment, c'est même pas que ça me met mal à l'aise. On se dit vraiment, mais quelle puérilité et quelle vacuité. Il y a vraiment aucun enjeu à faire ça.
J'espère que vous avez apprécié le fait que dans cette même émission, on parle à la fois d'irréversible et des 10 commandements.
ça se rejoint. Hein.
Que pense d'irréversible la charmante Charlotte et douce Charlotte?
Alors, je l'ai revu donc là pour l'émission et du coup, quitte à le revoir, je l'ai vu dans l'ordre chronologique qui est proposé là dans cette version dite intégrale. Ce qui est curieux, c'est qu'ils appellent ça une version intégrale, mais le film est plus court que l'original. Faudra m'expliquer. Oh, ça n'est pas que une
fabrique. Disons les choses franchement, ça ne change rien.
Alors, si, moi je trouve que ça change dans la narration. Parce que le côté absolument détestable du personnage Marcus, qui est joué par Vincent Cassel, à savoir, comme mes camarades l'ont dit, affreusement raciste, affreusement homophobe, il est con à bouffer du foin, enfin je veux dire, il a que des pulsions violentes, insupportables, on ne l'a qu'au bout de la moitié du film. C'est-à-dire que du coup, le film démarre par l'intimité avec Monica Bellucci, un couple heureux, un couple qui part faire la fête avec le meilleur ami, donc on rentre dans le film, si je puis dire.
Ça change pas le fond du film.
Mais en même temps, du coup, on a une montée en puissance de la violence, et au moins, on peut avoir un minimum d'empathie pendant une demi-heure qui est évidemment totalement annihilée par toute la fin du film. Parce que quand même, Gaspard Noé, il sait filmer, il est très très doué. Le problème, c'est que c'est au service de quoi ? C'est au service d'un propos qui était déjà difficile à entendre dans la bouche de Charles Bronson dans les années 70 et qui aujourd'hui n'est plus tolérable. Il y a quand même des phrases telles que « le sang, c'est la vengeance, et la vengeance, c'est le droit de l'homme ».
Oui, mais c'est pas...
Alors, voilà la motivation quand même
aussi
du gars.
Aussi puéril soit le film, c'est pas ce que défend le film. Enfin, tu peux pas dire qu'il
prône ça. Non, mais c'est ce que Gaspard Noé aime à nous montrer.
Bien sûr.
Pendant une violence insoutenable. Donc finalement, je trouve qu'il n'y a aucune réflexion, aucune perspective. C'est effectivement la démonstration d'un talent visuel, certes, mais extrêmement tape à l'œil, un peu épate bourgeois. C'est bête, quoi.
Nicolas.
Au-delà d'être insupportable.
Bah, moi, à l'époque, j'avais vu le film à Cannes. Ça m'avait vraiment marqué.
C'était une projection du soir, je me souviens tard, ouais. 22h, je sais plus.
Alors moi, j'étais pas à la projection officielle, ouais. J'étais à une projection de presse, mais c'est vrai que c'est une rare fois où j'ai eu peur de voir un film quand ça commençait, et j'en suis sorti, j'étais pas bien. Et je trouve que justement, ça change. Moi, je trouve le montage à l'endroit, dans la première version qui est montée à l'envers, c'était comme si on sortait d'un mauvais cauchemar, d'un mauvais rêve, d'un mauvais cauchemar, et qu'on revenait à la réalité, et on était presque soulagés parce que ça se finissait par cette espèce d'image un peu idyllique où il y a que des femmes qui courent sur l'herbe avec elle qui est enceinte. Bon, alors que là, vraiment, on revient dans la réalité en finissant sur le pire moment du film. Enfin, c'est comme si le cauchemar allait se prolonger. Donc, je trouve que c'est encore pire de le voir à l'endroit. Le problème, c'est que j'ai mûri depuis que je l'ai vu, que j'ai un peu grandi.
Enfin, que tu dis.
Oui, légèrement, très légèrement. Je suis toujours impressionné, moi, par Gaspard Noé, par ce qu'il ose formellement. Est-ce qu'il réussit? Je trouve la scène de plan séquence dans la chambre entre Bellucci et Cassel au début, il arrive à choper une intimité, quelque chose d'assez fort. On n'est pas loin de. Enfin voilà, il y a quelque chose du mépris de Godard dans la scène de la chambre, mais bon, je sens déjà les irritations. Après, effectivement, le problème, c'est qu'il ne sait pas s'il se prend pour Kubrick et pour Céline, et en même temps, il est plus proche de Choron et de Barnum, et donc il se mélange des pinceaux, et c'est problématique. Effectivement, mais c'est une expérience.
On peut quand même juste aussi saluer Monica Bellucci qui, quand même, au-delà du courage de tourner ça...
Qui a survécu au film.
Oui, non, et que je trouve très bonne actrice, parce qu'on ne le dit jamais, elle est très bonne.
Irréversible, c'est donc Gaspard Noé, c'est chez Studio Canal, et je voudrais signaler quand même, pour qu'il le note dans son carnet, à mon ami Xavier, que tu auras une nuit 100% Gaspard Noé le 17 mai, sur Canal, enfin sur Ciné Plus Frisson, avec la diffusion d'Irréversible en version intégrale, comme dirait Charlotte, et de Lux à Eterna, et un documentaire inédit de Marc Godin sur Gaspard Noé. Donc retiens bien, c'est le 17 mai sur Ciné Frisson.
Je note la date dans mon agenda tout de suite et je prévois des sacs en papier pour vomir.
On parlait il y a 15 jours des Yeux de Satan, film de 1972 de Sidney Lumet qui ne nous avait pas convaincus, et voici le Gang Anderson, sorti l'année précédente sur une musique de Quincy Jones avec Sean Connery et Christopher Walken, et qui ressort cette fois en DVD Blu-ray chez Sidonis. C'est Sean Connery, c'est John Anderson alias Duke qui vient de purger 10 ans de prison et ne trouve rien de mieux que de cambrioler l'immeuble très cossu de New York, enfin, collection de diamants, de tableaux, coffres remplis, où habite son ancienne compagne, avec lui un gang de braqueurs qui compte notamment Christopher Walken et Martin Balsam. Problème, l'immeuble est truffé de caméras de surveillance, de micros, de systèmes d'écoute téléphonique. Je rappelle quand même qu'on est 2 ans exactement avant l'affaire du Watergate. Ça a vieilli évidemment, mais ça fonctionne. Et je trouve que Sean Connery, qui déjà avait commencé à jouer James Bond, depuis même Belle Lurette, est assez irrésistible. Jean-Marc.
Oui, je trouve le film assez mineur, mais plutôt séduisant, effectivement. Et ça tient beaucoup, en effet, à la malice et au sex appeal de Sean Connery, qui est assez irrésistible dans le film. Et ce qui est irrésistible, c'est aussi la musique de Quincy Jones, la lumière, quelque chose de l'ordre à la fois de la texture du cinéma américain de cette époque et presque même de l'Amérique de cette époque. Il y a quelque chose d'extrêmement séduisant. Alors peut-être parce que j'étais enfant dans les années 70 et que ça c'est une sorte de bain de sensations qui rappelle même l'âge d'or de la télévision de l'époque. Il y a quelque chose qui renverrait à un épisode de Mission Impossible. Et il y a une manière comme ça de faire monter un suspense, une énigme, un secret qui ressemble à la fois au meilleur de la télévision des années 70 et à un certain moment du cinéma paranoïaque américain de l'époque qui irait de Pacula ou Coppola de Conversation Secrète, dont le film est un peu une série B, c'est-à-dire une forme vraiment très légère, très mineure. Il n'y a pas la complexité politique, analytique de Conversation Secrète.
Et c'est même filmé série B.
Voilà. Il y a quelque chose de très série B, mais presque très bonne télévision, je trouve aussi. Voilà. Donc le film est assez réjouissant.
Charlotte.
Oui, c'est une curiosité. Moi, je connaissais pas ce film. Je l'ai découvert là, et j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Jean-Marc. Si ce n'est que quand même, le film se passe sur deux temporalités à partir du moment où il y a le braquage, puisque c'est vraiment un film de braquage classique avec la constitution de l'équipe, les préparatifs, le braquage, et à partir de là, il y a deux temporalité avec des flash-forwards et ce qui est quand même un peu déstabilisant dans la narration, je trouve que ça manque un peu de fluidité, c'est très saccadé, mais le cœur du film, c'est-à-dire la surveillance massive des Américains, ça préfigure totalement le Watergate, il y a un côté vraiment prescient de Lumet et surtout le pouvoir que prennent les machines sur l'homme qui est très présent dans le film et ce qu'il avait déjà exploité dans Point Limite, dont on avait parlé dans une émission précédente, et ben finalement on se dit que 10 ans plus tard c'est encore l'obsession de Lumet là-dessus, même si c'est mis au service d'un soi-disant divertissement ludique, il y a ce fond politique qui est là et qui n'est pas inintéressant.
Et Nicolas ?
Bah c'est drôle parce que c'est à la fois un film assez visionnaire parce que mine de rien, ça a été fait 2 ans avant Conversation Secrète, ou 1 ou 2 ans, ouais. Non, même 3 ans, et 3 ans. Avant à cause d'un assassinat de Pacula. Et il parle vraiment de ça. C'est une vraie critique des caméras de surveillance, des écoutes illégales, de cette espèce de société paranoïaque. Et en même temps, à la fois, il distille ce climat parano, vous l'avez dit, par la technologie de l'époque. Alors, il y a toutes les caméras de l'époque qui ont un peu vieilli, vraiment toutes. Il y a des espèces d'enregistreurs énormes de caméras et de moniteurs d'un autre temps. Et du coup, ça donne vraiment un côté très kitsch au film. Et à côté, il y a l'ambiance cool. Je pense que Soderbergh s'est beaucoup inspiré du film pour Ocean's Eleven, parce que l'espèce de melting pot de braqueur.
Oui, on y pense.
Même Martine Balsam qui joue une espèce de grande folle. On a l'impression de voir Elliot Gould, Exubérant. Et donc, ce mélange, pendant une heure du film, on ne sait pas trop où on est. Ça passe d'une chose à l'autre. Et à la fin, il y a le Lumet qui, au moment du braquage, il y a la patte Lumet qui revient. Et là, on est rattrapé par une forme de brutalité du réel et toujours ses thèmes à lui, c'est-à-dire à la fois ce côté très cinéaste de gauche, un peu anard, où les gens les bourgeois qui vivent dans ces appartements et ces gangsters s'entendent pas si mal face à un système et des institutions complètement corrompues. Et là, d'un coup, à la fin, on comprend vraiment de quoi parle le film. Et voilà, donc la série B finit par être quand même assez, assez réjouissante sur la dernière demi-heure.
Xavier.
C'est un film à la fois passionnant et pour moi très décevant. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a énormément d'intentions, que vous avez tous très bien souligné d'ailleurs, dans le scénario. Il y a un côté prolétariat aussi des gangsters qui est assez intéressant et qui est initié par une scène en prison où Sean Connery est psychanalysé par un psychanalyste qui essaie de lui expliquer que non, il ne viole pas quand il braque un coffre-fort, il lui fait l'amour. Et je trouve qu'il y a toute une espèce de tirade comme ça qui fonctionne plutôt bien. Il y a vraiment un côté, effectivement, les prolos contre les Richards, puisque c'est un immeuble qu'ils vont dévaliser le jour de la fête des travailleurs. En plus, il y a quand même un clin d'œil, il y a un symbole. Et ce sont deux mondes contraires qui ne devaient pas se rencontrer et qui, effectivement, ont plus d'acquaintance qu'on pourrait le penser. Il y a beaucoup d'humour dans le film. Évidemment, la mise en scène n'en fait pas grand-chose. La mise en scène est sur un découpage très froid, très clinique, presque de la science-fiction, la musique de Quincy Jones au début. On a presque l'impression qu'on est dans une SF, tu as raison, Jean-Marc, des années 70. Et il y a un moment où je trouve que les deux ne se rencontrent pas. Pourtant, Frank Pearson, qui est le scénariste, va retrouver Sidney Lumet 2 ans plus tard pour Un après-midi de chien. Et d'ailleurs, le film, entre guillemets, est presque un trailer d'Un après-midi de chien dans le premier quart d'heure.
On dit Christopher Walken qui apparaît dans le film pourrait être dans l'après-midi
absolument. Mais je trouve que les intentions de la mise en scène et du scénario ne se rencontrent malheureusement pas toujours.
C'est le gang Anderson, c'est Sidney Lumet et c'est chez Sidonis. Avant de parler de Ferrara et de Compartiment Tueur, une pause biblique si vous voulez bien, les uns et les autres. Je vous rappelle qu'on est dimanche. Les 10 commandements, la super production de Cécile B2000 qui date de 1956, qui dure 3h40, hein, c'est assez rapide. Même. 3h50.
Moi, oui. Oh, on est plus à 10 minutes.
Moi, j'ai chronométré, j'étais à 3h40, mais peut-être que je me suis trompé ou endormi. Avec Charlotte Heston, Yul Brynner et qui joue Ramsès II. Anne Baxter, c'est Nefertari. Et tellement d'autres qu'on ne peut pas les citer. C'est disponible en Blu-ray et version restaurée chez ESC, film qui est le dernier de Cécile B. 2000 avant sa mort en 1959. Et c'est la réadaptation, on l'a parfois oublié, du film muet qu'il avait réalisé en 1923 et qui raconte, vous le savez, à partir de l'Ancien Testament, la libération des Hébreux, esclaves en Égypte. Ils sont conduits vers la terre promise par Moïse. Charlton Heston, sauvé des eaux, qui parle anglais et à qui Dieu remet les tables de la loi. Film tourné avec 10 000 figurants au studio Paramount de Los Angeles, en Égypte, à Monument Valley et dans un parc de Californie pour un budget colossal de l'époque, hein, de 13 millions de dollars. Let my people go. Et mes critiques, mécréants, qu'est-ce qu'ils en pensent, Xavier ?
Ça effroyablement vieilli.
Ah bon ?
Tu trouves ? Mais je crois que je n'avais jamais vu le film en entier. En plus, et heureusement, parce que s'il avait fallu que je perde 4 heures de mon temps et de ma vie dans une salle de cinéma.
Pas 4 heures.
3h50. Donc maintenant, voilà, je les ai perdus, mes 4 heures. Merci beaucoup, cher Jérôme Garcin. C'est très drôle pendant le premier quart d'heure, parce qu'on voit Cécile B. 2000 qui écarte le rideau et qui vient vers les spectateurs en expliquant que le scénario est basé sur des choses bibliques, avérées, que rien n'est faux, que tout est vrai. Un quart d'heure plus tard, on a Nefertari, parce qu'elle change de nom assez régulièrement dans le film. En tout cas, les sous-titres se mélangent un petit peu. Joue une chaudasse. Je me rappelle pas que ce soit écrit comme ça dans la Bible.
Non.
C'est-à-dire qu'on lui présente le roi d'Éthiopie.
Il n'y a pas écrit chaudasse dans la Bible.
Non, mais en même temps, Moïse revient triomphant avec le roi d'Éthiopie et sa jeune épouse, si mes souvenirs sont bons. Et il y a Anne Baxter qui regarde le roi d'Éthiopie. Et le mec sort hors champ et on voit bien la caméra. Enfin, on voit bien le regard d'Anne Baxter qui essaie de regarder comme ça le cul sans doute du roi éthiopien. Oh, d'accord, bien. Alors, je me suis dit, bon, chouette, il va détourner la réalité biblique et historique. Après, c'est d'un ennui pendant 2h45. Effroyable. Mais il y a la dernière demi-heure où on se gosse quand même, on se marre. Il y a déjà le buisson ardent qui est pas mal dans le genre.
À mort. Bah, surtout le
beau d'or. Cela dit, on connaît la fin. Hein.
Dès que les tables de la loi sont écrites comme ça, avec une colonne de feu, moi, personnellement, je n'en pouvais plus. C'était mort. Le veau d'or.
C'est bien.
La seule chose, c'est que ça m'a rappelé ce film de Mel Brooks que je n'aime pas du tout, mais qui avait réussi un gag extrêmement drôle sur les 10 commandements. C'est-à-dire Mel Brooks, en Moïse, descend avec 3 tables, chacune contenant 5 commandements. Il fait « Voilà, j'ai les 15 !» Il y en a une qui lui tombe à ses pieds et qui s'écrase et qui se brise. Non, les 10 commandements, finalement. Et je me dis que c'était éminemment plus drôle et plus fun et plus court, surtout.
Je vous rappelle que c'est le jour de Pâques. Hein.
Moi, je n'ai pas revu depuis l'âge de 9 ans. Ça ne m'avait plus à l'époque, mais vraiment, j'ai rien à en dire. Je n'ai pas réussi à dégager 4 heures dans mon emploi.
C'est bien ce que je disais. Tu es un pur mécréant, Nicolas.
C'est le summum de l'académisme. C'est vraiment pendant. Alors, effectivement, moi, je garderai la dernière demi-heure.
Moi, je dirais kitsch plutôt qu'académique.
C'est du kitsch académique, mais vraiment, il y a une
forme. C'est du kitsch biblique.
C'est une espèce de plan tableau complètement figé, le jeu très emphatique des acteurs. Je garderai quand même la dernière partie. Les dernières 30 minutes parce que l'ouverture de la mer Rouge, on dirait des tableaux de Delacroix quand même, il y a quand même un sens de la composition et alors une version kitsch, hein, revue mais vraiment il y a quelque chose comme ça d'assez, et la scène du veau d'or, on sent quand même qu'il était titillé par une fibre alors ce qui est vraiment intéressant, assez érotique, je finis vite, mais ce qui est intéressant c'est que quand même faut savoir que 2000 était quand même un type de droite dur, très macartiste, d'une violence rare, et c'est intéressant de voir Moïse qui au début quand même est comme ça, l'espoir de la liberté, ces espèces de rois bâtards qui représentent le peuple qui va se soulever, et petit à petit comme il devient de plus en plus une espèce de gourou illuminé à la limite fasciste qui impose et morale et puritain. Et il faut savoir, il y a une anecdote quand même qui court à Hollywood qui est très drôle, c'est qu'on disait que lorsque 2000 est mort et qu'il est monté au ciel, ils ne l'ont pas laissé entrer car il n'avait pas de siège à la droite de Dieu. Alors 2000 s'énerva et a dit: dites à Dieu que Cécile B. 2000 est ici, qu'il l'a fait ce qu'il est et qu'il peut le briser. Et je trouve cette anecdote géniale parce qu'elle dit bien la teneur du film.
Sœur Charlotte.
Oui, très rapidement, vous dites kitsch académique, je vais quand même rajouter ampoulé, quoi. C'est-à-dire que le truc se prend très 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 au sérieux. Alors, c'est vrai que c'est assez génial de voir ces productions XXL à 10 000 figurants avec les décors, les costumes, à l'heure où évidemment il n'y avait pas du tout de numérique. Donc, c'est très impressionnant de se dire que dans les années 50, on faisait des films de cette ampleur. Alors, moi, j'ai poussé le vice je l'ai revu un peu en diagonale, je vous l'avoue,
mais en français.
Non, non,
version irréversible.
C'est ça.
C'est mieux. Hein.
Mais en français. Et donc, c'est des voix très des années 50. Et j'avance avec mon bâton. Enfin, le truc est complètement c'est inaudible. C'est extrêmement drôle. Les poses de Yul Brynner qui, quand même, bombe le torse, rentre les fesses. Enfin, on dirait un calendrier des pompiers torse nu. C'est très, très drôle. Et puis, sur les effets spéciaux, il y a des trucs déments, quoi. C'est-à-dire que l'orage de grêle, quand tu regardes bien, c'est des pop-corn. C'est génial. C'est quand même plein de pop-corn qu'on leur envoie.
Il rate complètement les clés d'Égypte. Hein.
Ouais,
c'est
non, enfin, voilà.
Ça, c'est
donc,
vrai.
Il faut le voir comme une petite confiserie ultra kitsch, mais il faut avoir le temps. Et c'est quand même très, très lourdingue. Et bon, voilà.
Les 10 commandements de Cécile Bedémil, c'est chez ESC. Très peu biblique et beaucoup plus vampirique que The Addiction, film en noir et blanc de 95, signé Abel Ferrara, qui ressort restauré et approuvé par Ferrara soi-même. Chez Carlotta, avec Lily Taylor, le Christopher Walken du gang Anderson, différent, hein. Annabella Sciorra et Eddie Falco. On est à Manhattan un soir. Kathleen, c'est Lily Taylor, qui travaille à sa thèse de doctorat en philo, est attaquée par une femme qui la conduit dans une impasse. Et la mort au cou, à partir de là, Kathleen va avoir, comme Xavier, une soif irrépressible de sang humain qu'elle réclame à la manière un peu d'une droguée en manque. Il faut dire que Ferrara connaît le sujet. Film court, 1h22, beaucoup plus court que les 10 commandements, tourné en 20 jours seulement, avec un tout petit budget. Et puis des sentences que j'aime beaucoup, énigmatiques, comme celle-ci que j'ai notée. Ce n'est pas parce que nous faisons le mal que nous sommes mauvais, mais au contraire, nous faisons le mal parce que nous sommes mauvais. Jean-Marc.
Oui, alors c'est pas exempt de religiosité, malgré tout. Tu l'opposais clairement, aux 10 commandements.
Ah, non, mais j'organise très bien mon émission.
Oui,
hein.
très naturellement.
Donc le film entretient une forme de confusion entre plusieurs systèmes philosophiques, le religieux, le métaphysique, le matérialisme, dans une sorte comme ça de composition assez difficile à suivre. Par moments que je trouve un peu indigeste, c'est-à-dire que je trouve vraiment le film est saturé de références, de si tu en as cité une, il y a vraiment 50 comme ça dans le film. C'est une sorte de composition comme ça, de citations philosophiques
en tout sens. C'est pas par hasard qu'elle est doctorante en philo. Hein.
Bien sûr. Mais disons, le film est une sorte de... Comme si le personnage délirait en fait tout son savoir dans une forme un peu poétique et un peu hallucinée. C'est la part, disons, la plus... Il y a quelque chose de presque agressif dans le film, dans la manière dont le film comme ça dégoupille toutes ces citations. Et en même temps, le film est totalement fascinant, pas vraiment agréable à regarder, d'une très grande puissance stylistique. Je trouve qu'il a une manière de filmer New York qui a toujours été son point fort au cinéma. Mais là, ce New York en noir et blanc réduit à quelques rues, on a vraiment le sentiment qu'on est au cœur même, aux entrailles de la ville et c'est très puissant. Il y a une scène de cocktail universitaire qui se transforme en carnage, qui est quand même une scène stupéfiante à voir. Quoi. Il y a quand même une puissance figurative. Je trouve qu'il y a vraiment un sens de la stylisation chez Ferrara, qui en fait quand même un très grand cinéaste. Quand bien même son film est confus, par moments embarrassant, je le trouve beau et fascinant.
C'est sûr que le film pose beaucoup de questions. Alors d'où vient le mal, notre capacité à résister à la tentation, c'est la question de la volonté. Le problème, c'est qu'il y répond quoi à ces questions. Et il y répond en saupoudrant des noms de philosophes à tout va, en insérant 3-4 plans de la Shoah ou de la guerre du Vietnam.
Je défie quiconque de dire ce qu'il répond. C'est-à-dire que le film entretient une telle mosaïque,
mais
une
telle
confusion.
C'est ça, mais
ça dépend si on est chrétien ou pas.
Ouais, du coup, enfin moi, et puis alors à la fin, la culpabilité, l'absolution, la résurrection, enfin non, je t'ai plus quoi, ça part dans tous les sens. Mais là où je te rejoins, Jean-Marc, c'est que je trouve que formellement, toutes les scènes de nuit dans New York, c'est il frôle l'expressionnisme quoi, c'est un noir et blanc somptueux et qui se marie finalement très bien avec le côté granuleux des scènes diurnes et de l'énergie de New York qui capte. Lily Taylor est assez fascinante, mais alors sur le fond du film, au final, je n'ai rien compris de ce qu'il voulait m'en dire, ça ne m'intéresse pas. Et cette métaphore évidente entre l'addiction à la drogue, avec le vampirisme.
Mais c'est très réducteur de voir uniquement ça dans le film.
Ben, j'aimerais bien y voir autre chose.
C'est ce
qu'on nous montre. Et ça paraît du coup un sujet très très limité comme réflexion sur ce sujet.
Il y a le sida, il y a la marginalisation, il y a la métaphore, il y a plusieurs couches.
Le sida est esquissé pour être emballé immédiatement.
Après, moi, c'est le moment où Ferrara commençait à faire des films d'étudiants en cinéma. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a, avec une forme de, non mais il avait moins de moyens. C'est vraiment l'amorce d'une partie
là,
de
peu,
carrière hein, de Ferrara. Voilà, une partie de la carrière de Ferrara où moi je le trouve moins. Alors il est excusé parce que l'année d'après il fait son chef-d'œuvre pour moi qui est Nos Funérailles où là c'est encore le, c'est la fin de sa grande période. Et c'est vraiment où voilà où il commence à devenir un peu trop littéral, poétiquement littéral, professoral. Alors c'est le dernier scénario, c'est l'avant-dernier scénario fait avec son scénariste des débuts et son fidèle collaborateur Nick Saint-John, si je dis pas de bêtises, qui lui est un vrai chrétien et je pense que pour lui le message du film est très clair. Là le problème c'est qu'effectivement Ferrara il a toujours comme ça des petits moments de grâce parce que c'est quand même un bon metteur en scène et comme ça dans le, j'allais dire, il arrive à choper des choses et à créer des courts moments, mais malheureusement je trouve que le film est vraiment trop littéral et un peu trop explicite quoi.
Xavier, non, je suis d'accord avec vous sur les trois plans de Manhattan effectivement et du ghetto et de Harlem. Enfin tout ça est tellement perclus de clichés que ça n'est même plus très intéressant. Les regards caméra de Lily Taylor c'est quand même un petit peu raté. Après vous ne dites pas quand même l'essentiel, c'est qu'il pique tout à Mylène Farmer. Alors je sais bien que chez vous.
On n'a pas ta
le culture. Plan de fin. Je suis désolé quand elle pose une tulipe sur une tombe. C'est plus grand dire qui a été réalisé 10 ans plus tôt.
Elle a fait tourner Ferrara pour un
film. J'allais en arriver avec conclusion. Il pique tout de regret le clip qu'elle a tourné avec. Jean-Louis Murat. Il pique tout dans Je te rends ton amour. Elle jouait effectivement une femme vampirisée comme ça, empreinte au désir de sang. Et donc, effectivement, elle l'a invité à réaliser California. Mais en fait, elle ne l'a pas invité. C'est lui qui avait tout piqué à Mylène.
Mais tu as le sujet d'un livre.
Donc, je suis désolé, mais rendez l'argent, monsieur Ferrara. C'est pas possible.
C'était le jugement de Xavier, dont on sait l'addiction. Pour Mylène Farmer, sur The Addiction.
Je restitue la vérité.
D'Abel Ferrara, et on termine rapidement avec Compartiment Tueur de Costa Gavras, film de 65, adapté du roman de l'excellent Sébastien de Feu, l'excellent Sébastien Japrisot, et réédité chez Arte Éditions, je parle du film, hein, avec Yves Montand dans le rôle de l'inspecteur Graziani qui enquête sur les mystères d'un train fantôme, Marseille-Paris, où une passagère d'une voiture couchette est étranglée, puis ensuite les autres occupants du compartiment. Donc les témoins du meurtre sont assassinés avec une distribution absolument incroyable, je l'avais oublié. Il y a Jean-Louis Trintignant, Simone Signoret, Michel Piccoli, Jacques Perrin, Catherine Allégret, le commissaire Pierre Mondy, Charles Denner, Pascal Roberts, Monique Chaumette, Bernadette Lafont et j'en oublie. Allez, rapidement Charlotte.
Rien que pour un monologue de Charles Denner, il faut le voir. Rien que pour les voix-off de Piccoli et Signoret, on le revoit. Pour le rythme du film, par les dialogues, la mise en scène, le montage, enfin moi je trouve que c'est une merveille. Curieusement, en 1965, pour un premier film, Costa Gavras, qui est trentenaire, ne s'inscrit pas du tout dans la nouvelle vague, mais dans ce cinéma classique extrêmement dialogué, extrêmement construit. Et puis la musique de Michel Magne, ce générique
grand
début.
Michel Magne.
Magnifique. Et puis voilà, ce casting de rêve, de comédiens classiques et de jeunes pousses de la nouvelle vague, c'est un bijou.
Je suis entièrement d'accord avec Charlotte, rien que pour la mise en scène qui passe son temps à virevolter, alors qu'à l'époque, les moyens étaient quand même beaucoup plus lourds. Je trouve que la façon dont il tire profit de l'espace extrêmement réduit du compartiment où se déroulent pratiquement les 20 premières minutes, c'est d'une inventivité, c'est extrêmement léger et ludique. Non, je suis désolé, tu peux dodiner de la tête, Nicolas, je continue de penser.
C'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film au début, mais c'est intéressant.
Moi, j'aime beaucoup, je trouve que la poursuite de la fin,
terminer, Xavier,
avec les blousons noirs, est extrêmement réussie. C'est une gourmandise, le dialogue de Simone Signoret sur les fonctionnaires, la gueule du fonctionnaire.
Et il y a beaucoup d'humour, contrairement
à
la suite de la carrière
après,
de Costa Gavras.
Après, c'est un petit peu inspiré d'un roman d'Agatha Christie, je ne dirais pas lequel pour maintenir un peu le suspense.
Ah bon ?
Oh bah,
tu trouves, toi ?
Bah c'est ABC contre Poirot.
Ah oui,
excuse-moi.
Ah oui, ah
oui. Voilà, maintenant je l'ai dit, tu pourras te couper au montage.
Non.
Mais ceci mis à part, c'est extrêmement gourmand, extrêmement agréable, extrêmement jazzy en termes de mise en scène et de montage. Moi, vraiment, j'ai pris plaisir à revoir ce film.
Jean-Marc.
Oui, c'est d'une fraîcheur et d'une fantaisie assez inouïe et que la suite de la carrière de Costa Gavras ne permet pas du tout d'envisager. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la fantaisie soit vraiment la force de son cinéma ensuite. donc c'est vraiment une surprise de découvrir un Costa Gavras extrêmement ludique. Il y a quelque chose de presque italien. Ça fait penser, sans la dimension horrifique, mais à certains films très très pop de Mario Bava avec ce noir et blanc. Et il y a quelque chose de très réjouissant aussi dans le casting parce que c'est pas simplement qu'il y a un défilé impressionnant de vedettes, c'est que vraiment on a le sentiment qu'ils s'amusent ensemble et il y a quelque chose d'extrêmement communicatif dans cette énergie du film.
Avec, encore une fois, cette distribution, quand on revoit le film aujourd'hui, on se demande même comment c'est possible pour un seul film et même film. Nicolas.
Bah, je suis d'accord, mais c'est marrant parce que je trouve que c'est souvent, Costa Gavras, on l'oublie, mais il y a toujours une énergie folle et même dans son dernier film qui est très différent, qui était Adult Serum, il y a toujours cette recherche d'énergie, ce goût du mouvement et effectivement là, il y a vraiment ça. Ce qui est intéressant, parce que je trouve, au début, ça commence un peu comme justement comme comme un whodunit un peu à la papa dans le compartiment. Et on sent qu'il se, il fait un montage très cut pour s'arranger de l'exiguïté du compartiment. Et petit à petit, le film devient de plus en plus, moi je trouve, influencé presque par le film noir américain. Et il prend une ampleur dans sa mise en scène assez folle. Je suis d'accord, c'est vraiment très réjouissant. Et on apprend un personnage qui se suicide à la mitraillette, ça c'est quand même assez impressionnant.
Compartiment tueur, c'est Costa Gavras. Et ça ressort chez Arte Éditions. Voici venu le moment des conseils. Et je le disais en début d'émission, Bertrand Tavernier, à qui j'ai voulu dédier cette émission, est mort le 25 mars. Et je vous propose de conseiller, même malgré les réserves qu'ont certains, je pense à Jean-Marc pour le cinéma de Tavernier, de conseiller un film que vous avez particulièrement aimé. Et on va commencer avec Charlotte, parce que je précise que tous ces films quasiment sont disponibles, DVD, Blu-ray et
DVD. Sauf La Passion Béatrice, malheureusement, qui est vraiment qui est introuvable.
La plupart sont tous disponibles. Charlotte.
Comme tout est disponible, je n'arrivais pas à faire mon choix dans sa filmographie. Et donc moi, je voudrais recommander 3 vies de cinéma, qui est une série documentaire de 3 fois 52 minutes, réalisée par Chad Chenouga, qu'on peut voir sur Canal+. Et c'est une conversation à bâton rompu, si je puis dire, entre Bertrand Tavernier, Blier et Lecomte, sur leur amour du cinéma, mais le cinéma en le faisant, en le fabriquant. Et donc, ce sont des souvenirs et des témoignages de leurs premiers films, de films ratés, de leur rapport aux acteurs, leur rapport aux producteurs, aux métiers. C'est gorgé d'anecdotes, ça déborde d'amour du cinéma. Et là, une fois encore, évidemment, on peut voir toute l'érudition de Bertrand Tavernier et toute son émotion aussi. Il y a notamment un passage où il parle de Romy Schneider qui est à vous fendre le cœur. C'est très,
remarque,
très beau.
Tu t'es un peu défaussé parce que tu n'as pas pris un film de fiction de Tavernier. Tu as pris l'érudit cinéphile.
Alors, j'ai pris l'érudit.
Et encyclopédie.
Oui. 3 vies de cinéma.
Nicolas.
Alors, j'allais conseiller Le Voyage à travers le cinéma français, qui c'est son documentaire de 9h et 3h, mais je ne vais pas le faire. Mais bon, voyez-le, parce que c'est 13 heures de Tavernier qui parle de cinéma français et c'est absolument passionnant. Donc, je vais aller sur les films. Moi, j'aurais en cité deux qui, je pense, permettent de vraiment comprendre qui était le personnage de Tavernier. Il y a son premier film qui est L'Horloger de Saint-Paul. Donc, c'est l'adaptation de son nom à Lyon et la manière dont il filme Lyon. Sa manière de parler finalement de la peine de mort de manière très subtile et à la fois la relation très pudique qu'il a avec son fils. Tout ça, je pense que c'est une bonne synthèse de ce qu'était Tavernier. Et un film un peu méconnu aussi qui est Des Enfants Gâtés, où Piccoli, qui a toujours dit qu'il jouait les metteurs en scène, qu'il le dirigeait, là, il l'a jamais fait aussi littéralement qu'avec ce film, où il joue une projection de Tavernier avec un peu de Claude Sauté mélangé. Et c'est un cinéaste qui va s'isoler dans un immeuble pour écrire un scénario, qui tombe amoureux d'une femme, qui est empêtré dans des histoires de gestion immobilière. Et c'est vraiment un film très étonnant et il y a Christine Pascal qui est vraiment bouleversante dans le rôle et je pense que ces deux films disent bien, je pense, la personnalité profonde de Tavernier et ce que peut-être il n'a pas montré de l'homme qu'il était, quoi, dans la vie.
Et puisque vous me posez la question, moi c'est Un dimanche à la campagne qui m'émeut toujours terriblement et j'ai vu plusieurs fois. Xavier.
Moi, ce sera le premier Tavernier que j'ai vu, c'était sur Antenne 2, je devais être à la maison chez moi à 20h30 et c'était une semaine de vacances avec Nathalie Baye et Gérard Lanvin et j'avais été vraiment, je l'ai pas revu depuis, je ne sais pas s'il a vieilli, je m'en fous, je veux garder ce souvenir. J'avais aimé la mélancolie, j'avais aimé sa façon de filmer Lyon, j'avais aimé cette façon de filmer un personnage, ça m'avait vraiment touché et ému. Je vais avoir 12-13 ans maximum et c'est un film pour lequel j'ai encore une affection réelle. Après, s'il fallait m'en garder un de manière objective, c'est Coup de torchon, que je trouve être un polar méchant, nihilique, sarcastique, extraordinairement bien dirigé, extraordinairement bien interprété. Voilà. Ce serait un grand écart hein, quand même entre un polar colonialiste et un film sur plus intimiste, mais c'était en même temps tout ça. Tavernier,
c'est
pas un cinéaste que je vénère,
c'est difficile d'en choisir,
mais que je trouve très intéressant.
Riche.
Jean-Marc, je le disais, c'était pas ta tasse de cinéma.
Non, c'est un cinéaste pour qui j'avais assez peu de goût effectivement, et j'ai choisi en fait un livre qui est une œuvre qui m'a vraiment marqué chez lui, qui est son livre somme. C'est moi, je l'ai lu sous la forme des 50 ans de cinéma américain. Il y en avait eu des versions préalables qui étaient les 20 ans puis les 30 ans de cinéma américain. Il travaillait à un 100 ans de cinéma américain, et c'est un livre très impressionnant parce qu'il envisage le cinéma hollywoodien classique, pas seulement avec l'entrée des cinéastes, mais aussi avec des scénaristes, et la manière dont il dessine un paysage général, pièce par pièce, en créant des rapprochements, c'est très impressionnant. C'est vraiment une fresque cinéphile qu'il a coécrit avec l'historien Jean-Pierre Cossodon, et c'est vraiment un livre très fort de cinéma.
Et je le disais en début d'émission, depuis que le masque confiné, si j'ose dire, parle de films classiques, Bertrand était quelqu'un de très fidèle évidemment à cette forme du masque et la plume et m'envoyait très régulièrement des mails pour me dire vous devriez inscrire ceci, etc. Et c'est vrai qu'on voyait que c'était une passion cinéma, comme disait Michel Simon, qu'il avait vraiment chevillé au cœur et au corps. Nos conseils taverniers, vous les retrouverez bien sûr sur le site du masque et la plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Nicolas Chalair, Jean-Marc Lalanne et Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique, il y avait, et je les remercie, Valérie Lavalard et Valentin Azan pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de littérature et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.